Père Patrick Desbois, bonjour.
Bonjour.
Nous nous connaissons depuis longtemps. Et je suis très très heureux et très fier aussi de vous accueillir ici. Et je pense que la plupart de nos auditeurs vous connaissent. En quelques mots, vous êtes prêtre du Prado. Vous avez travaillé avec des personnalités capitales du catholicisme français, Monseigneur de Courtrai, Monseigneur Lustiger, dont vous avez été proche, ensuite Monseigneur 23. Vous avez été responsable des relations judéo-catholiques au sein de l'Église pendant de nombreuses années. Et vous êtes accessoirement, j'allais dire, guide d'Israël, guide officiel d'Israël, pays que vous connaissez admirablement bien. Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler aujourd'hui, mais je voudrais essayer de focaliser notre entretien sur, d'une part, le travail que vous avez effectué en Europe centrale, et d'autre part, le travail que vous faites maintenant aussi, loin, avec les Yézidis. Alors, pour commencer, ce lien très particulier que vous avez avec les Juifs, d'où vient-il ?
Je pense qu'il vient de très loin, il vient d'avant ma naissance, puisqu'en juillet 1942, mon grand-père a été déporté dans un petit village ukrainien, à Ravaruska, et il m'a fait comprendre petit à petit que c'était pire en dehors du camp que dans le camp. Et quand je me suis rendu là-bas, j'ai compris que 18 000 juifs avaient été fusillés. Et je dirais que c'est comme ça que l'aventure s'est renouée. J'ai décidé d'étudier la Shoah, d'aller Yad Vashem plus de 7 fois, et d'étudier à l'université du Mons Scopus, et je dirais d'entrer, je dirais, à ma façon dans le peuple juif.
J'ai encore ce souvenir de Ravaruska, où nous avons été ensemble il y a longtemps, longtemps, où effectivement la mémoire des juifs de la ville avait été longtemps partiellement oblitérée.
Oui, vous avez été l'un des pionniers, je dirais, avec moi, qui avait marché dans ces chemins, dans ces campagnes, à la recherche de paysans. Certains disaient même qu'il n'y avait jamais eu de juifs dans la ville, alors qu'ils étaient 75%. Et puis petit à petit, finalement, ils ont accepté de raconter qu'ils étaient présents à la fusillade des juifs.
Oui, alors qu'il y avait à côté ce camp disciplinaire des prisonniers français, dont le destin a été très différent. Alors, vous avez été à l'origine, avec le soutien du cardinal Lustiger, de l'organisation Yad Inunum, dont le nom en lui-même, Yad d'un côté, Inunum de l'autre, est un symbole des relations judéo-catholiques. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Yad Inunum, ce que vous faites actuellement. On sait que le terme de Shoah par balle, lorsqu'on parle de la Shoah par balle, souvent on pense au travail qu'a effectué le Père Desbois. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites à l'heure actuelle, aujourd'hui même, en matière de recherche sur les lieux de mort et d'assassinat, non seulement en Ukraine, mais dans l'ensemble de l'Europe centrale?
Oui, nous travaillons depuis la Lituanie, en passant par la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, etc., la Russie, jusqu'à l'Azerbaïdjan. Chaque année, on est 29 plein temps à Saint-Ouen, puisque maintenant notre siège est à Saint-Ouen, et on organise 20 séjours d'investigation, c'est-à-dire que on frappe en fait aux portes des gens qui ont été présents au fusillade des Juifs. Actuellement, nous avons une équipe en Pologne, conduite par Renata, une jeune fille polonaise, et une autre équipe qui va partir en Russie, conduite par Patrice Ben Simon, et qui va faire les mêmes recherches. C'est exigeant, les témoins sont âgés, mais comme tous les enfants venaient voir les exécutions des Juifs, c'était comme un spectacle, comme un carnaval, les écoles fermées la veille pour que les enfants soient libres d'assister. Donc ces gens aujourd'hui sont âgés, ils n'ont jamais parlé depuis 1942-1943, ils parlent pour la première fois et on les filme. Et on fait aussi des recherches, je dirais avant, dans les archives soviétiques et allemandes pour être sûr de la vérité du crime.
Combien faites-vous actuellement de recherches? Combien d'équipes envoyez-vous chaque année en Europe orientale?
On a 5 équipes avec 5 chefs d'équipe, mais on fait 20 séjours d'investigation par an. On évite simplement l'hiver quand il y a trop de neige. Et on fait région par région, village par village. Je dirais qu'on va quasiment dans tous les villages où les Allemands ont fusillé des Juifs et des Tziganes. C'est très exigeant parce que dans des pays comme la Pologne notamment, ou comme l'Ukraine ou la Lituanie, il y a une fosse commune par village.
Oui. Donc c'est un travail absolument considérable que vous continuez de faire et vous voyez encore à l'heure actuelle des survivants, des gens qui parlent et qui n'ont pas été interrogés.
Oui, on ne voit d'ailleurs qu'eux. Je rappelle un monsieur, il avait plus de 1500 juifs dans son jardin et il m'a dit « j'ai 1500 juifs dans mon jardin et c'est la première fois que quelqu'un vient depuis 42 me poser des questions ». Parce qu'on n'a pas forcément tué les juifs dans le village, on les a attrapés, on peut les avoir fait marcher 5 kilomètres, avoir creusé des fosses et les avoir fusillés quelque part. Donc ça demande vraiment à chercher village après village. On bénéficie d'un proverbe russo-soviétique qui dit que la guerre est finie lorsqu'on enterre la dernière victime. Donc pour eux, on vient pour finir la guerre.
Alors, très rapidement, quels sont les éléments saillants que vous avez mis en évidence et qui amènent à reconsidérer le regard que l'on portait sur cette période, sur la Shoah, sur les assassinats des Juifs en Europe orientale?
Ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois la Shoah par balle et fusillade était une affaire sous contrôle allemand, coordonnée par les Allemands, coordonnée par Berlin, mais aussi, je dirais, pas sans les voisins. Sans les voisins, on ne pouvait pas tuer les Juifs. Il fallait des gens pour tout. Il fallait des gens pour creuser les fosses, pour remplir les fosses, pour transporter les Juifs avec les chariots, les chevaux, pour vider les maisons des biens juifs, pour vendre les biens aux enchères, etc. On a trouvé 22 petits métiers que les Allemands donnaient, les petits métiers de la mort que les Allemands donnaient aux locaux. Et je dirais, la machine était totalement faite main. Je dirais que c'était un génocide incrusté dans les villages. Sans les villages, on ne pouvait pas tuer les Juifs. Et je dirais, on le savait, mais de rencontrer les gens qui l'ont fait, donc c'est une question de culpabilité ou pas de culpabilité, mais de toute façon, ils avaient besoin des voisins. Et il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Donc les barbelés, je dirais, c'était les voisins.
Oui. Et donc cette idée d'un génocide purement technique, industriel, tout ça, ça ne tient pas évidemment devant ces meurtres qui sont des meurtres faits finalement au vu au sud de tout le monde et qui ne sont pas comme ce qui se passe dans les camps d'extermination, dans des endroits entièrement clos par rapport à l'environnement.
Oui, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. La barrière est humaine. Soit ce sont des gardes allemands qui délimitent un périmètre autour de la fosse pour que les Juifs ne puissent pas se sauver, soit c'est des gardes locaux. Et puis de toute façon, il y a les spectateurs. Une dame m'avait dit, pour la première exécution de Juifs, on n'a pas eu une très bonne place, on ne voyait pas tout. Mais pour la deuxième exécution, on a eu une très bonne place. Donc je dirais, la barrière était humaine. Ce qui me frappe aussi, c'est que ces crimes n'entrent pas dans la mémoire. Je rencontrais des amis récemment, y compris des amis juifs, qui disent « mais on ne savait même pas ». Alors c'était connu des historiens, dans les livres savants c'était connu. Mais par le peuple, si on tue des gens, si on les fusille, même des dizaines de milliers de personnes, la plus grosse fosse commune contient 54 000 personnes. C'est un vallon en fait, c'est pas une fosse commune. Les gens ne s'en souviennent pas, ça n'entre pas dans les mémoires. Et donc c'est important de l'étudier parce qu'aujourd'hui, quand on tue des juifs à Paris, en Israël ou à Pittsburgh ou ailleurs, forcément, on les tue aussi un par un. Je crois que les tueurs de masse, je dirais, ont appris qu'il ne fallait plus faire de camps. Donc je dirais, la Shoah par balle, c'est le prototype des crimes de masse aujourd'hui. Je dis souvent dans mes conférences, avec le peuple juif, nous disons souvent « plus jamais ». Et les tueurs disent « plus jamais Auschwitz ». Je me souviens qu'avec quelqu'un que vous connaissiez bien, M. Vulkanovitch, qui faisait partie du comité international d'Auschwitz, un jour, il y a fort longtemps, en période soviétique, il m'avait dit « Hitler a fait une erreur ». Et je lui dis « quelle erreur ?» Il a fait Auschwitz. Et je dis « pourquoi pour vous c'est une erreur ?» Il m'a dit « parce que les Juifs reviennent ». Il m'a dit « quand on les tuait dans les forêts, ils ne sont jamais revenus ». Et je dirais, ce que l'on est en train de faire avec Yarad, c'est que les Juifs reviennent. Récemment, j'étais avec des jeunes de l'UEJF. On a mis des mémoriaux pour la première fois. On a mis des noms de juifs dans un site d'exécution énorme. Et sûrement une étape suivante qui va être, c'est de revenir et d'inscrire des mémoriaux, même dans les fosses communes les plus mal situées. Car si on ne revient pas, je dirais, les tueurs de masse savent qu'on peut tuer des juifs sans qu'ils reviennent.
Voilà, comme tout le monde, je ne peux que admirer le travail que vous avez effectué. Et je crois que c'est au nom de tous que je vous dis merci. Aujourd'hui, vous faites également un autre travail, en plus de ce que vous continuez d'effectuer en Europe orientale. Vous travaillez avec les survivants d'un autre génocide, peut-on l'appeler génocide ?
Oui, on l'appelle génocide. Oui.
Celui des Yézidis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, qui sont les Yézidis, qui sont très mal connus ? On ne sait pas si ce sont des Zoroastriens, s'ils sont pas un peu musulmans, s'ils sont des adorateurs du feu, des adorateurs de Satan. Enfin, qui sont les Yézidis et que s'est-il passé avec eux ?
Donc les Yézidis, d'abord, sont des Yézidis. Ils ont une religion à eux, qui est la religion Yézidis. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas chrétiens, ça ressemble effectivement au culte des Zoroastriens, mais ils sont yazidis. Et les Daesh les ont accusés d'être voués au diable parce qu'ils n'ont pas de livres, donc ils n'ont pas été classés comme des dhimmis. Et ils avaient toujours annoncé qu'ils les mettraient en esclavage. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dépecé les familles, vendu les filles en gros. Une fille qui sort aujourd'hui de Daesh a été vendue entre 25 et 35 fois. Les garçons ont été mis dans des camps d'entraînement ou dans des écoles islamiques. Et donc actuellement, nous faisons deux choses. Nous interviewons ces gens dès qu'ils sortent, dès qu'ils sont libérés de moins d'un mois, car il y a toujours des Yazidis esclaves de Daesh, en Syrie notamment, car malheureusement Daesh n'est pas mort. Et deuxièmement, nous avons des structures, deux énormes, je dirais, sites pour des enfants dont on a lavé le cerveau. Ils ne se souviennent même plus du nom de leur famille, ils ne reconnaissent pas leur maman, ils ne parlent plus le kurde, qui est la langue des Yazidis, ils ne parlent que la langue de ceux qui les ont achetés. Je me rappelle, j'ai interviewé un petit enfant qui avait été acheté par une famille américaine Daesh, et il m'a dit « I'm American, I'm not Yazidi ». Et je lui ai dit « Qui est ta mère ?» et il m'a dit le nom de la femme Daesh. Je sais que maintenant, au bout d'un an, il a réappris sa langue et il sait maintenant qui est sa mère et qui est son père. Donc c'est un véritable travail. On suit plus de 400 enfants qui ont été, je dirais, dont on a lavé le cerveau puisqu'ils n'étaient pas musulmans de naissance. Ils sont devenus musulmans. On les a formés dans des camps d'entraînement et on essaie de les aider avant qu'ils retrouvent leur place dans les villages ou bien dans un pays d'accueil puisqu'ils reçoivent beaucoup de visas. Et par ailleurs, nous aidons les femmes aussi qui viennent de sortir. Ces femmes ne savent plus qui elles sont. Leur mari a été tué, leur père a été tué, leurs enfants ont été tués. Elles se retrouvent toutes seules. Et en plus, elles ont été vendues tant de fois, changées de prénom tant de fois. Et parfois, elles ont eu aussi des grossesses forcées. Et on les a obligées d'abandonner l'enfant parce que l'enfant est de père musulman. Donc, elles sont dans un état affreux. Donc, on a deux centres avec des machines à coudre, des psychologues. Et pour les aider, je dirais que les femmes s'en sortent pratiquement mieux que les hommes. Elles arrivent à rebondir. Mais c'est un travail permanent et j'y retourne très bientôt. Nous continuons ce travail de lutte contre Daesh, je dirais, car malheureusement, les Juifs le savent bien, lorsqu'un génocide est terminé, il n'est pas terminé pour les victimes.
Donc c'est une situation tout à fait particulière. Ces enfants qui ont été radicalisés, qui ont perdu totalement leurs racines, qui parfois sont récupérés par leur famille, parfois sont rachetés par leur famille, et parfois ces familles se retrouvent avec des enfants qui ont le plus profond mépris pour la tradition des parents. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, il y a véritablement des succès à espérer d'une déradicalisation?
On n'a pas toujours des succès. Ça serait mentir que de le dire. Comme je dis, les gens me disent que ce sont des futures bombes humaines. Je dis oui, mais c'est comme le cancer, c'est mortel, mais si on ne le soigne pas, on est sûr d'en mourir. Donc je dirais, il faut essayer, surtout que ces enfants ne sont pas nés musulmans. Donc la famille qui les accueille n'est pas musulmane, elle est même contre les musulmans. Donc je dirais, il y a quand même des liens familiaux qui restent, des liens ethniques, des liens aussi de linguistique qui donnent une chance. Pour le moment, nous estimons à plus de 50% les succès pour les enfants qui sont petits, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand ils sont plus grands, c'est plus compliqué parce qu'ils ont été envoyés sur le front, ils ont déjà tué beaucoup de gens. Et la mort, je dirais, leur est naturelle. Il faut savoir qu'un enfant Daesh a vécu, il a vu beaucoup d'exécutions publiques. Les exécutions publiques, les pendaisons, les crucifixions, les décapitations étaient médiatisées sur des écrans, la foule allait voir. Donc il a vu ça comme on voit un match de foot. Donc il faut vraiment prendre compte, on a aussi des formations en France qu'on donne au personnel qui accueille ce qu'on appelle les revenants, je n'aime pas ce mot-là, c'est-à-dire les gens qui reviennent de là-bas, surtout les enfants, afin qu'on tienne compte du caractère criminel de Daesh. Le crime était, je dirais, affaire de tous les jours.
Vous avez eu l'occasion au cours de votre vie de rencontrer des islamistes, lorsque vous étiez notamment en Algérie, autour de Mgr Claveri. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont collaboré avec les nazis. Vous avez eu l'occasion de rencontrer donc ces enfants qui ont été, dont le cerveau a été entièrement transformé par la propagande. Quelle est votre impression sur les possibilités de travail que l'on peut faire avec ces gens-là pour les ramener à une vision moins radicale des choses?
Disons que le choix que Yarad a fait, mon organisation, c'est de travailler sur place. C'est-à-dire de travailler, on est en lien avec plusieurs États auxquels on demande un SAS pour qu'il ne soit pas ramené tout de suite. Et donc il y a un temps de resocialisation. Par exemple, si quelqu'un était chez Daesh, si c'est un garçon, il n'accepte pas d'être approché par une fille. Du tout, il crie s'il voit une femme. Et donc, le remettre dans un milieu mixte, où il y a garçons et filles, où il y a du respect, aussi lui donner un métier. Ces gens n'ont pas d'autre métier que d'avoir été dans les camps d'entraînement. Donc en ce moment, on leur fait un apprentissage professionnel de mécanicien, de coiffeur, de chauffeur, etc., afin qu'ils aient un métier, peut-être un métier en Irak. Donc je dirais, il y a tout un travail de resocialisation, il est sûr que ça va contre le vent. Moi je n'aime pas le terme d'éradicalisation, puisque ce sont des enfants qui n'étaient pas musulmans, donc je préfère dire lavage de cerveau. Il est vrai qu'il y a des chances de ne pas avoir de réussite, mais il y a aussi des chances d'avoir des réussites. Pour le moment, on a quand même pas mal d'enfants qui retrouvent, je dirais, la vie de leurs parents. Et il faut quand même savoir qu'on a l'appui familial avec nous, c'est-à-dire la maman est inquiète, elle voit que sa fille ne lui parle plus, que sa fille lui dit « je ne suis pas ta fille, tu n'es pas ma mère, tu m'as volé », etc. Et petit à petit, la fille réalise que c'est quand même sa mère. Vous savez, des fois, les parents sont obligés de montrer une photo à leur enfant avec eux pour leur prouver qu'ils sont bien les parents. Un papa, il avait sa fille qu'il a récupérée comme ça, qui avait été achetée par des gens qu'il a pu récupérer, et il lui montrait sans arrêt des photos car la fille disait « tu m'as volé, tu n'es pas mon père ». Donc c'est vraiment un lavage de cerveau intégral, c'est pas que sur l'islam, c'est sur toute la généalogie, la langue, la culture. Lorsqu'ils sortent, ils sont très arrogants, ils nous insultent, ils m'insultent, ils insultent mon caméraman, mon photographe. Je dirais, nous avons l'habitude. Mais je dirais, c'est comme tirer l'eau d'un puits, le puits est profond, mais il faut quand même essayer. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc ces enfants aujourd'hui sont yazidis, il ne faut pas oublier qu'ils ont vocation à avoir un visa de réfugié, donc il y a pour moi urgence à travailler là-bas avant qu'ils reviennent, d'être en dialogue avec les institutions qui les prennent comme réfugiés afin qu'on ait le temps suffisant pour les refamiliariser avec leur famille. La chance qu'on a, c'est que la famille est là, est totalement opposée à Daesh puisqu'elle-même a souffert, la maman a parfois été violée et revendue plus de 20 fois et retrouve son fils qui lui dit qu'elle est une adepte du diable. Donc on a les familles avec nous, c'est les enfants, c'est les parents qui nous amènent leurs enfants. Mais il faut y croire, je dirais, à temps et à contre-temps. Mais je dirais, quand on a commencé le travail sur la Shoah, tout le monde me disait aussi que c'était impossible de trouver des témoins. On a filmé plus de 6000 personnes. On a retrouvé des fosses communes sur 10 pays. Donc, je dirais, il faut y croire.
Patrick, un seul mot, Be'atzlacha.
Merci.